bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lime sur l'antenne de RCF 61. Au début du mois de décembre 2014 est sorti un document que les associations de malades de Lyme attendaient avec une grande impatience. Il s'agit du rapport du Haut Conseil de Santé Publique sur la borréliose de Lyme. Et pour nous en parler aujourd'hui, notre invité est le docteur Philippe Raymond, qui est médecin généraliste, qui a fait partie donc de ce groupe de travail du Haut Conseil de Santé Publique qui a établi le rapport et qui est par ailleurs membre fondateur du réseau Chronimed. Docteur Philippe Raymond, bonjour.
Bonjour.
Docteur Raymond, vous vous intéressez beaucoup à la maladie de Lyme. On a pu vous voir déjà dans des reportages, en particulier en ce qui concerne les liens entre l'autisme et les maladies infectieuses chroniques, dont la maladie de Lyme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'origine et les objectifs de ce réseau de médecins Chronimed ?
Oui, alors Chronimed, c'est un groupe de médecins qui a été formé en 2009, réuni autour du professeur Montagnier, qui, je rappelle, est prix Nobel de médecine en 2008 pour sa découverte du virus de sida. Ce groupe est multidisciplinaire et il a repris les travaux et publications des professeurs Jadin, des docteurs Legac, Giroux et Bottero dans les années 80, travaux et publications sur les causes infectieuses de certaines pathologies chroniques pour lesquelles la médecine est encore actuellement bien démunie. En y recherchant des microbes qui peuvent être à l'origine de ces maladies, telles certaines fibromyalgies, certains syndromes de fatigue chronique, mais aussi certaines pathologies neurologiques comme certaines scléroses en plaques, certains rhumatismes inflammatoires, certaines maladies gastro-entérologiques comme le Crohn ou l'RCH, et puis même psychiatriques comme l'autisme. Les microbes retrouvés peuvent être des bactéries comme la Borrelia, les Rickettsii, les Bartonelles et Streptocoques et d'autres bactéries, mais aussi des virus, des protozoaires, des parasites ou même des champignons. Actuellement, plusieurs centaines de médecins français et étrangers nous suivent dans cette approche des infections chroniques froides, dont la borréliose de Lyme fait partie.
Et donc comment vous définissez ce que vous appelez une infection chronique froide ?
Alors, ce sont des infections sans fièvre, latentes pendant un certain temps, un peu comme la tuberculose, qui peuvent passer inaperçues et qui peuvent se développer plus ou moins en fonction du terrain immunitaire.
Donc, pour en revenir au rapport du Haut Conseil de Santé Publique sur la borréliose de Lyme, est-ce qu'on peut faire un petit historique comment, en fait, on est arrivé à la publication de ce rapport ?
Alors, ça s'est passé en juillet 2012, c'est bien vieux, suite à l'expansion de la borréliose de Lyme, l'évolution des connaissances et aussi la poussée des associations de malades, la Direction générale de la Santé a saisi le Haut Conseil de Santé publique pour réaliser un état des connaissances actualisé sur la borréliose de Lyme, sur l'épidémiologie, sur le diagnostic, sur le traitement et sur les axes de recherche concernant cette pathologie. Un groupe de 12 personnes a été nommé, médecins, biologistes, vétérinaires, pharmaciens. Et notre rapport a été rendu en janvier 2014 et publié officiellement le 4 décembre 2014 sur le site du Haut Conseil de Santé publique.
Alors avant la publication de ce rapport du Haut Conseil de Santé publique, le seul document de référence en fait qui faisait loi concernant le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme, c'était ce qu'on appelle le protocole de la conférence de consensus de 2006 qui était organisé par la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française. Alors le terme de consensus est un petit peu abusif parce que c'était loin d'être consensuel. Et justement, dans la lettre de saisine du Haut Conseil de Santé publique, le directeur général de la Santé parle, je le cite, du contexte de controverse actuelle.
Alors, en 2006, c'était consensuel, mais la maladie était en telle évolution qu'à partir du moment où on a un domaine en évolution importante, et ça ne concerne pas que le milieu médical, il se crée après souvent deux camps. Il y a celui des conservateurs et celui des novateurs. Chaque camp ayant assez d'arguments valables, ce qui induit automatiquement des controverses. C'est pour cela que le président de notre groupe de travail a tenu à ce que cet état des lieux fasse état de ces controverses et du maximum de points de vue exprimés sur le sujet.
Mais déjà, vous avez été sollicité, donc vous, pour faire partie de ce groupe de travail. Vous qui, dans cette controverse, représentez quand même un point de vue qui, jusque-là, avait été peu écouté. C'est celui des médecins qui considèrent que la maladie de Lyme peut, par exemple, devenir chronique et peut nécessiter de longs traitements antibiotiques.
Tout à fait. Même si nous sommes de plus en plus nombreux à le penser, dans le sillage du professeur Christian Perron, nous restons quand même encore une minorité. Une des raisons est tout simplement, actuellement, les médecins sont obligés, aussi bien hospitaliers que libéraux, à suivre des consignes médicales préexistantes.
D'accord. Donc en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulé concrètement le travail dans ce groupe de travail ?
Nous avons mis au point, nous avons mis en commun nos compétences personnelles, nous avons étudié la littérature, auditionné des experts, des associations et beaucoup étudié tout ça.
Et oui, alors on trouve dans la liste des personnes auditionnées, on trouve des gens qui ont des opinions très divergentes, notoirement divergentes, comme les infectiologues, le professeur Perron, tenant, on va dire, du Lyme chronique, et puis le professeur Christman, qui est plutôt totalement opposé à cette idée. Et puis également des associations de patients, comme France Lyme et Lyme sans frontières, donc nous avons participé à certaines auditions. Alors, on va ouvrir une petite parenthèse, parce qu'il faut dire qu'on est quand même un petit peu surpris, nous, dans les associations de patients, par la description qui est faite de nos associations dans ce rapport. Et donc, on a l'impression parfois que l'information n'est pas très bien passée sur qui nous sommes et ce que nous faisons vraiment. Déjà, nous sommes des associations de malades, donc de gens qui ne sont pas spécialement, effectivement, des médecins, des scientifiques, puisque la raison de notre association, c'est simplement d'être malade de la maladie de Lyme. Par contre, on nous décrit comme souvent opposés au monde médical, avec une sorte d'attitude vindicative vis-à-vis des médecins. En réalité, il faut quand même rappeler que Lyme sans frontières comme France Lyme, les deux principales associations de malades en France, ont organisé ces dernières années plusieurs conférences médicales de haut niveau qui étaient destinées parfois aux médecins, parfois au grand public et au cours desquelles sont intervenus des grands spécialistes internationaux comme le docteur Horowitz, qui est membre de l'ILADS aux États-Unis, le professeur Christian Perron, dont vous parliez tout à l'heure, vous-même, docteur Raymond, pour Chronimed, le docteur Yvan Boucher, qui est un médecin belge qui fait partie de l'ILADS également, également la biologiste Eva Chapin, qui est une biologiste américaine qui fait des travaux très poussés sur la Borrelia, la bactérie responsable de la maladie de Lyme, des médecins allemands de l'association allemande de Borreliose, la chercheuse Muriel Vessier, dont vous allez, je pense, parler, parce qu'elle faisait partie du groupe de travail aussi de ce Haut Conseil de Santé Publique. Donc tous ces sont des scientifiques et des médecins. Et ces conférences réunissaient parfois plusieurs centaines de personnes. Donc c'est quand même la démonstration qu'il existe une collaboration très fructueuse entre les associations de malades et le monde médical et scientifique. Et puis aussi, il n'est pas du tout pratiquement abordé le problème de la prévention dans ce rapport du Haut Conseil de Santé publique. Et j'aimerais quand même rappeler qu'actuellement, la prévention en France sur la maladie de Lyme est pratiquement uniquement faite par les associations de malades, sur nos propres fonds et avec notre propre énergie. Il n'y a aucune prévention mise en place par les pouvoirs publics. Ce qui est assez paradoxal quand on voit que pour d'autres problèmes de santé publique, comme le sida, les maladies cardiovasculaires, les cancers, ou même récemment la grippe H1N1 et les chikungunya, on a eu quand même une implication très importante des pouvoirs publics. Et là, en ce qui concerne la maladie de Lyme, il n'y a que les associations de malades pratiquement qui font quelque chose. Donc je referme la parenthèse. Et on va revenir sur le rapport du Haut Conseil de Santé publique. Est-ce qu'il y a des avancées significatives dans ce rapport? Est-ce qu'en fait, ça va changer vraiment quelque chose à l'approche de la maladie de Lyme qu'on a en France?
Oui, évidemment. Malgré quelques des imperfections, évidemment, ce rapport fait un état d'un certain nombre de faits nouveaux, aussi bien dans l'épidémiologie que dans la compréhension de ces pathologies chroniques suite à des morsures de tiques, souvent appelées Lyme chronique. Donc, premièrement, il y en a un premier volet épidémiologique où on a quatre points nouveaux importants. Le premier, c'est que suite à aux modifications écologiques, à l'urbanisation, on constate une augmentation importante du nombre de tiques. La deuxième, c'est que l'homme lui-même est plus à même de se faire piquer du fait de ses activités de loisirs, campagnards, forestières, beaucoup plus qu'auparavant. Ensuite, ce rapport nous montre que les tiques sont bien plus souvent infectées que ce que l'on croyait auparavant, notamment par la transmission transovarienne de l'infection, c'est-à-dire directement de la mère tique à la descendance, à sa descendance. Actuellement, les relevés montrent que 60% des tiques sont infectées contre, on avait trouvé que 15% il y a 8 ans. Quatrièmement, les tiques sont aussi multi-infectées par les différentes bactéries que l'on découvre grâce maintenant aux progrès techniques. Bartonelle, rickettsie, babesia, erlica, anaplasma, tout ça c'est des choses qu'on ne savait pas il y a 8 ans.
Quand vous parlez de 60% des tiques infectées, il s'agit donc de l'ensemble des infections dont vous avez parlé, pas seulement de la maladie de Lyme.
Oui, oui, tout à fait. On a 25% de tiques qui sont infectées par une espèce de Borrelia, Burgdorferi ou autre Borrelia. Et on a quand même 35% qui sont infectées par d'autres germes pathogènes. Et puis, il faut savoir qu'une même tique peut être multi-infectée. Et on a 30% de tiques qui sont infectées par au moins deux espèces. Borrelia, par exemple, plus Bartonelle, Borrelia, plus autre chose. Voilà, ça, c'est le côté épidémiologique. Il y a le deuxième volet qui est médical. confirme dans le rapport que l'érythème migrant peut passer inaperçu au départ et donc on peut manquer le diagnostic en phase primaire. D'autre part, on confirme aussi que donc, concernant ces autres agents pathogènes contenus dans les tiques, on a pu prouver que leur transmission à l'homme était possible et qu'ils entraînent une infection chronique malgré les traitements antibiotiques classiques. C'est un article qui est en voie de publication avec le professeur Raoult, Muriel Vessier et le groupe Chronimed.
Donc avant de revenir sur ces deux thèmes principaux que vous venez de définir, un petit mot quand même sur les tests de dépistage biologique. Alors, le rapport confirme qu'il y a bien un problème avec ces tests de dépistage.
Oui, tout à fait. Alors, nous les avons évalués selon les normes de spécificité et de sensibilité souhaitées par le Centre national de référence, ainsi que le CALB, qui est l'organisme européen du Lyme, et nous avons constaté la non-conformité de 60% des tests ELISA du marché et 30% des tests Western Blot, ce qui est effectivement important. Ce rapport conclut donc la nécessité de remettre de l'ordre dans le marché existant et de développer des tests plus fiables.
Et vous-même, dans votre pratique en tant que médecin généraliste, qu'est-ce que vous accordez en fait comme place ou test sérologique dans l'établissement de votre diagnostic par rapport à vos patients ?
Alors, question importante, puisque les tests sérologiques restent dans tous les cas d'interprétation difficile. Il ne faut pas croire que c'est la panacée, ils ne nous montrent que des anticorps, c'est-à-dire les soldats qu'un organisme sécrète contre un ennemi qui est une bactérie. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le nombre de soldats qui détermine si l'on est en guerre ou pas. Et encore moins si l'on perd la guerre ou pas. Par exemple, il y a beaucoup de soldats dans un pays comme les États-Unis en ce moment, et ce sont juste des patrouilleurs, et le pays n'est pas en guerre. Et puis, à l'opposé, en 1940, il n'y avait pas beaucoup de soldats en France, et pourtant, on perdait la guerre. Donc, il faut se méfier des tests biologiques qui ne sont qu'une indication, et en cas de doute, c'est l'histoire du patient, les symptômes cliniques qui priment, comme le souligne notre rapport. You and me, we're the kind of people other people would like to be. Wandering free, we present the kind of picture people are glad to see. Something I wanted to do all my life. And we don't care that tomorrow comes with no guarantee. We've each other for company. And come what may, you and me will stay together. Me harmony. Okay. Year after year. Won't we, my dear? We'll always be you and me. Walk this way.
Taught him everything he knows. Vous écoutez Médiatique. Aujourd'hui, on parle du rapport du Haut Conseil de Santé Publique sur la maladie de Lyme avec le docteur Philippe Raymond qui faisait partie du groupe de travail. Donc on va aborder maintenant un aspect assez prometteur de ce rapport, c'est la large part qui est faite à ce qu'on appelle les co-infections de Lyme, c'est-à-dire un ensemble de maladies infectieuses transmises aussi par les morsures de tiques. Alors ces co-infections, les médecins qui connaissent bien Lyme les connaissent depuis longtemps et ils les recherchent systématiquement chez leurs patients, tant il est vrai qu'un malade de Lyme a rarement seulement la maladie de Lyme. Mais par contre, c'est un domaine qui est pratiquement inconnu des médecins en général en France. Donc parlons de ces co-infections.
Alors, c'est grâce au laboratoire vétérinaire de recherche de Maison Alfort et à sa directrice Muriel Vessier, membre de notre groupe de travail, que nous avons pu prouver l'existence d'infections chroniques à d'autres germes que Borrelia chez nos patients chroniques qui avaient été mordus par des tiques. On a pu trouver que ces pathogènes étaient des bactéries, comme Bartonelle, Ehrlichia, Rickettsie et autres, mais aussi des protozoaires comme Babesia et aussi des virus. Il est possible que dans certains cas, donc, les symptômes dont se plaignent les patients suite à une maladie de Lyme soient dus à ces autres agents infectieux, mais jusqu'à présent, cela n'avait jamais été mis en avant, ni même évoqué en France. C'est donc une avancée significative.
Oui, on a l'impression que ça pourrait même être une porte de sortie pour la résolution d'un conflit qui menaçait de s'éterniser, le fameux débat pour ou contre le Lyme chronique. Alors, on va revenir là-dessus en détail, mais disons déjà que les médecins qui étaient violemment opposés à l'idée que la maladie de Lyme puisse persister après les traitements standards, ou bien qui refusaient d'admettre que les tests sérologiques, et en particulier les tests ELISA, n'étaient pas assez sensibles et laissaient passer des malades, ces médecins-là peuvent finalement arriver à être d'accord avec l'idée que ces malades, par exemple ceux qui sont séronégatifs pour Lyme, ne sont pas pour autant des malades imaginaires, mais peuvent être victimes d'autres infections que pour l'instant on n'a pas encore identifiées et qu'on ne cherche pas.
Oui, c'est ce que vous soulignez est très juste et c'est un point très positif d'ailleurs du rapport. Ce n'est pas parce que l'on ne trouve pas d'infection avec des tests classiques qu'il n'y en a pas. Il est urgent que des moyens soient mis en œuvre pour qu'en pratique courante, les laboratoires puissent effectuer ces recherches plus poussées qui sont des PCR, pour rechercher ces autres bactéries que sont pour que les médecins les diagnostiquent correctement.
Oui, alors on rappelle qu'une PCR, c'est une méthode qui permet de trouver la présence d'un organisme, par exemple un microbe, par amplification de son matériel génétique. Donc ce n'est pas du tout une recherche d'anticorps, c'est une démarche quand même très différente. Alors justement, il y a une suggestion qui est très intéressante dans le rapport du Haut Conseil de Santé publique, c'est d'identifier en fait des groupes de patients, alors que dans le rapport, on utilise les termes des patients présentant une sémiologie polymorphe persistante après morsure de tique. Alors on va dire en langage plus simple, c'est que ce sont des personnes qui ont de nombreux symptômes qui persistent après avoir été piquées par une tique et dont on n'identifie pas vraiment la cause. Parce que à côté du fait de montrer l'existence des infections à l'intérieur des tiques, le rapport du Haut Conseil de Santé publique met en avant l'existence d'une population de malades qui présentent des symptômes persistants après ces morsures de tiques. Et jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, particulièrement en France, dans l'historique de la controverse scientifique qui entoure ce groupe de patients, ces patients étaient considérés soit comme souffrant de ce qu'on appelait un syndrome post-Lyme, soit d'une maladie de Lyme chronique, avec bien entendu une énorme différence de traitement selon l'opinion du médecin.
Oui, effectivement. Dans le consensus 2006, le terme syndrome post-Lyme évoquait donc des séquelles ou des déséquilibres immunitaires consécutifs à cette infection. Et donc, pas d'infection active. Vu que le traitement antibiotique classique avait été donné, et donc les patients devaient être guéris. Les médecins, donc, à ce moment-là, n'avaient pas théoriquement le droit de prolonger le traitement antibiotique, et donc proposaient d'autres traitements, type des antidouleurs, des psychotropes, des relaxations, de la psychothérapie, pour s'occuper de ces patients qui persistaient à avoir des symptômes. C'est la position encore actuelle de la plupart des médecins. Par contre, de notre côté, le terme Lyme chronique évoque une infection persistante. La bactérie persiste dans le corps, alors peut-être pas que de la Borrelia d'ailleurs. Elle est toujours là et elle est responsable de symptômes qui d'ailleurs continuent de s'aggraver avec le temps si on ne fait rien. Ce terme de Lyme chronique nous vient des USA où il a été validé récemment. C'est donc dans cette optique qu'on propose des antibiotiques sur des périodes plus longues, comme conseillé par les récentes recommandations de l'ILADS, qui est la Société internationale du Lyme et des pathologies associées américaines. Et voilà, le groupe Chronimed, d'ailleurs, se rallie à cette approche de traitement plus prolongé. Tant qu'on n'avait pas de cause infectieuse, on pouvait parler de post-Lyme, de syndrome post-Lyme, ce qui pouvait se concevoir. Par contre, aujourd'hui, avec si la biologie est parlante avec ces nouvelles techniques, le paradigme change, surtout si on a une issue thérapeutique favorable.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler en fait en quoi consistent ces fameux symptômes persistants après piqûre de tique?
Ouais, c'est un petit peu compliqué. C'est difficile pour un médecin non expérimenté de faire la part de tous ces symptômes et d'essayer de voir si l'origine est bactérienne, psychologique, toxique, alimentaire, environnementale ou même plusieurs origines à la fois. Le diagnostic se fait surtout sur la multiplicité des organes atteints depuis plus de 6 mois de façon continue. La base du diagnostic, c'est la fatigue, anormale, chronique, invalidante, chez une personne qui était en pleine forme jusque-là, avec souvent des troubles cognitifs aussi. Le tableau douloureux est souvent présent, atypique, migrateur, intermittent, douleur de repos. Les signes neurologiques sont très évocateurs pour un médecin expérimenté, ainsi que les signes musculaires. On a toujours des signes vasculaires, voire quelquefois cardiaques, et puis souvent des symptômes digestifs. Et puis d'autres organes peuvent être atteints, comme la partie ORL, la sphère ORL, ou le pulmonaire, ou visuel, avec des signes visuels très atypiques. Mais bon, c'est pas facile de vous dire ça comme ça, puisque même après des années d'expérience, il nous faut une heure de consultation pour trier tous ces symptômes chez un patient chronique. Il faut savoir aussi que la barrière entre origine psychologique et bactérienne est très fine. Surtout lorsqu'on souffre depuis très longtemps d'une infection chronique, qui en plus n'est pas reconnue, il est normal de présenter une dépression secondaire.
J'aime bien entendre ce mot dépression secondaire, parce que c'est vrai que c'est une possibilité que les médecins devraient garder en tête. C'est malheureusement très fréquemment qu'ils attribuent les symptômes somatiques, comme les douleurs, la fatigue, les problèmes de concentration, les problèmes de mémoire, les troubles gastro-intestinaux, à une dépression. Alors que la dépression, effectivement, peut se développer à force de souffrir quotidiennement de tous ces symptômes très pénibles et en plus pour lesquels on n'a pas d'explication. Alors pour en revenir à la proposition qu'on trouve dans le rapport du Haut Conseil de Santé publique, l'idée c'est déjà de caractériser une population de malades en éliminant bien sûr toutes les autres causes, comme par exemple des maladies auto-immunes ou effectivement dans certains cas des dépressions vraies. Et puis dans un deuxième temps, chez ces malades pour lesquels on a des symptômes mais pas d'origine, pas de cause, de rechercher systématiquement chez eux la présence de ces autres agents infectieux qui peuvent avoir été transmis par des tiques. Donc c'est un énorme projet de recherche.
Oui, c'est ambitieux, mais c'est ce que le rapport conseille. Et pour faire aboutir ce projet, j'espère que les moyens suivront, autant financiers, techniques qu'humains. C'est un autre point très positif de ce rapport, d'ailleurs, que d'associer tous les acteurs pour qu'ils travaillent de concert, notamment les associations de malades. Il faut souligner que des projets d'études sont déjà en cours pour isoler ces micro-organismes chez des patients présentant ces symptômes polymorphes.
Il existe donc des projets, en particulier, on a un projet du professeur Christian Perron, qui est une étude qui s'appelle Dimitri, mais jusqu'à présent, donc, il n'a pas obtenu de la part des pouvoirs publics les moyens financiers humains nécessaires. On peut espérer que le rapport va faire avancer les choses dans ce domaine. Donc, on a bien compris, rechercher chez ces patients les autres micro-organismes qui peuvent potentiellement être responsables de leurs symptômes. Cela dit, c'est quand même pas exclu, et d'ailleurs on trouve cette notion dans le rapport, que certains de ces patients soient quand même des malades de Lyme et qu'ils soient séronégatifs.
Et oui, aucun test biologique n'est fiable à 100%. Et surtout pas les sérologies bactériennes.
Donc ça m'amène à souligner quand même un autre point positif du rapport. On trouve en page 34. On dit là qu'en cas de sérologie négative, si par contre la clinique est compatible avec une maladie de Lyme, alors je cite mot à mot, le doute devant bénéficier au patient, un traitement antibiotique pourra lui être proposé.
Et oui, c'est nouveau, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, ce rapport nous indique que la clinique prime sur la biologie et qu'en cas de doute, on peut conseiller un traitement antibiotique d'épreuve.
Alors jusqu'à présent,
si la patiente s'améliore.
Voilà. Alors que jusqu'à présent, on considérait qu'un traitement se justifiait seulement quand on avait à la fois une présentation clinique claire avec des symptômes de Lyme bien précis et une sérologie positive. Donc là, c'est vraiment une avancée notable. Maintenant, on va quand même parler des petits points décevants. Quand même, il y a des domaines où le rapport du Haut Conseil de Santé publique est franchement décevant. Et c'est le cas de la polémique qui touche aux durées de traitement. Parce qu'un des points de controverse les plus violents concerne justement ces malades qui s'obstinent à rester malades malgré le fait qu'ils ont été soignés, entre guillemets. Et il faut rappeler quand même ici de quelle façon le protocole de 2006 dit qu'il convient de soigner les malades de Lyme.
Alors, le consensus 2006 donne des durées de 2 à 4 semaines de traitement selon le stade de la maladie. Mais il dit aussi qu'on peut aller jusqu'à 12 semaines en cas d'arthrite chronique. Quand même.
D'accord, mais si à l'issue de ces traitements standards, les malades sont toujours malades, alors il y a un certain nombre de médecins qui sont plutôt rares, qui osent prescrire des antibiotiques de façon beaucoup plus prolongée. Mais ces médecins sont parfois très décriés par certains de leurs confrères. Et qu'est-ce qu'on peut trouver donc dans le rapport du Haut Conseil de Santé publique au sujet de ces traitements prolongés?
Alors, il faut savoir que d'un côté, il y a des médecins qui sont censés obéir aux règles de prescription du consensus 2006. Et d'un autre côté, il y a un certain nombre de médecins qui, quand même, tentent de soulager la douleur de ces patients avec des traitements antibiotiques prolongés ou répétés, comme le conseil, le groupe d'experts américain de l'ILAD. Et puis, ces médecins ont un certain succès, sinon ils ne continueraient pas. C'est vrai que leur position n'est pas facile, mais ils osent le faire quand même, il faut leur rendre hommage. Le rapport qu'a dit le groupe de travail là-dessus, n'ayant pas d'études publiées sur l'efficacité de ces traitements, notre groupe de travail n'a pas pu se positionner officiellement sur une thérapeutique antibiotique conseillée, tant dans la durée que dans le choix des antibiotiques. Donc le groupe de travail demande donc d'effectuer des essais cliniques dans ce sens, en collaboration encore avec les associations de patients.
En fait, donc le rapport non seulement ne valide pas l'approche des traitements longs, mais il y a même des critiques assez acerbes sur ces traitements. De ce fait, les médecins qui ont le courage de prescrire des traitements prolongés, en suivant par exemple les protocoles mis au point par l'ILADS aux États-Unis, se trouvent en France encore maintenant en porte-à-faux par rapport aux recommandations officielles. Et on peut dire que rien n'a concrètement avancé dans ce domaine. Et ça, c'est un motif de grande déception pour nous, les associations de malades. Pourtant, dans le rapport, il est souligné qu'aux États-Unis, la moitié des médecins aujourd'hui ne respectent pas les recommandations officielles de l'ITSA, qui correspond en fait à notre protocole de 2006, mais suivent plutôt les protocoles longs de l'ILADS. Et aux États-Unis, donc, ce qui était au départ un mouvement minoritaire, comme celui de Chronimed actuellement en France, est en train de devenir majoritaire. Ça va même plus loin, puisque dans plusieurs États qui sont particulièrement touchés par la maladie de Lyme, on a eu des lois qui ont été passées qui protègent la liberté de choix des médecins et des patients et qui interdisent aux compagnies d'assurance, qui sont l'équivalent de notre sécu et de nos mutuelles, donc qui interdisent à ces compagnies de refuser le remboursement des protocoles longs. Donc on est vraiment très très loin de ça en France. Et nous, à France Lyme, on reçoit de nombreux appels et des mails de personnes qui sont en difficulté, qui ont reçu les traitements officiels préconisés par le consensus de 2006 et qui sont toujours malades à l'issue de ces traitements. Et dans certains cas, nous avons la chance de pouvoir les orienter vers des médecins qui sont prêts à appliquer des protocoles longs. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Ces médecins-là sont très rares. On a des régions entières de France où on n'a personne. Et en plus, ce qui est dramatique, c'est que certains médecins sont ouverts, ils seraient intéressés par cette autre approche, mais ils ont peur des sanctions possibles, des caisses de sécurité sociale ou de l'ordre des médecins. Et là-dessus, le rapport du Haut Conseil de Santé publique, malheureusement, n'apporte aucun éclaircissement et aucune éclaircie.
Ce que vous dites est juste, c'est encore un réel problème. Cependant, par rapport à notre groupe de travail, la vocation de ce rapport n'était pas de pouvoir résoudre tous les problèmes. On a déjà obtenu certaines avancées très importantes dont on a parlé. Cependant, pour le reste, les choses évoluent et on peut rester optimiste quand même. Il y a quelques années, aux USA, les médecins qui préconisaient les traitements longs étaient une petite minorité. Aujourd'hui, comme vous le dites, dans ce pays, plus de la moitié des médecins préconisent pour la borreliose de Lyme des traitements plus longs. Et je peux vous dire qu'avec 8 ans d'expérience, les médecins français semblent suivre ce mouvement américain. En effet, on a aujourd'hui de plus en plus souvent des contacts avec des généralistes, des spécialistes, mais aussi des hospitaliers qui constatent objectivement l'efficacité de ces traitements antibiotiques prolongés et qui s'ouvrent donc à l'existence de ces symptômes polymorphes persistants après mensurdotique et qui se mettent eux aussi à prolonger les traitements en cas de besoin.
Donc pour vous, les progrès viendront de la base en fait, sont convaincants de plus en plus de vos confrères par des informations, par des discussions, par exemple les conférences médicales, etc., sans jamais se lasser, toujours à revenir à convaincre.
Et oui, tout à fait, c'est ce qui semble se passer en tout cas, notamment grâce aux milliers de patients traités et aux associations de malades. Mais c'est un travail de longue haleine.
Tout à fait, on espère que cette émission va faire partie aussi de ce travail, sera écoutée par des médecins qui vont se poser des questions et peut-être évoluer sur ce sujet. En tout cas, docteur Philippe Raymond, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci.